L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, conté par le professeur Ahmed Jabbar.
Dans cet empire monde qui se déploie de l'Asie centrale à l'Espagne entre les 7e et le 13e siècle, la prospérité des échanges, la liberté de penser permettent un essor scientifique sans précédent, surtout sous le règne des Abbassides. Les bibliothèques florissent à Shiraz, à Saragosse, Marrakech, Damas et s'y côtoient astronomes, mathématiciens, philosophes ou encore traducteurs. Un savoir qui n'est pas soutenu ni financé à proprement dit, en tout cas, pas par le pouvoir politique en tant que tel, mais quand l'aide financière existe, sa forme la plus répandue est le mécénat. À cet égard, plusieurs des califes de la période la plus faste ont été incroyablement généreux, dont Harun al-Rachid et peut-être même encore plus son fils al-Mamoun. Même si parfois ces aides financières ne sont pas aussi désintéressées que cela, quelque forme qu'elles aient pu prendre, elles ont favorisé cet essor dans l'avancée des activités scientifiques de l'âge d'or des sciences arabes. Professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous allez être généreux en nous comptant une fois de plus une nouvelle étape dans cette belle saga sur l'âge d'or des sciences arabes.
Ben, je vais essayer.
Très bien. Alors ce soir, le mécénat, qui a pris la décision de développer les sciences? Est-ce que ce sont, disons, les pouvoirs musulmans en tant que tels?
Non, pour une raison très simple, c'est que les premiers pouvoirs musulmans étaient les quatre califes bien dirigés, qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. C'était le début de la grande civilisation de l'islam. Puis, vous savez, les sciences se développent quand il y a une demande de la société. Mmh. Et ça ne se fait pas par décret, même aujourd'hui. On peut considérer que cette période, c'est une période de savoir-faire. Et à partir du moment où il n'y a pas de sollicitation, le savoir-faire existe un peu partout dans l'Empire nouveau. Donc, pas de science au sens science qui a besoin de traduction, etc. Les califes n'interviennent pas encore. Mmh. Alors, arrive la période Omeyyade. La période Omeyyade, on la connaît, c'est de 661... jusqu'à 754. C'est un siècle pratiquement. Alors là, nous ne sommes pas très bien informés, toujours pour la même raison d'ailleurs, parce que comme ça les auditeurs vont apprendre comment les historiens des sciences travaillent. Hein. Mm-hmm. La même raison, c'est qu'il y a eu sûrement des choses intéressantes qui ont été faites, en réponse à votre question, mais les historiens après n'ont gardé, n'ont mémorisé que ce qu'ils ont considéré comme des grands événements. Or, dans tout phénomène social, les grands événements sont préparés par les petits événements, par les événements ordinaires. Et c'est une accumulation d'événements qui font qu'il y a, à un moment donné, un saut qualitatif, des choses nouvelles. Mais les historiens retiendront les choses nouvelles, le résultat du processus, surtout que ce processus, il est un peu caché. Malgré ça, on a, de temps en temps, des petits éléments qui nous permettent de dire, quand même, que les Omeyyades ont commencé à préparer le terrain. Qu'est-ce qu'on appelle terrain? Eh bien, la science, ce n'est pas seulement ouvrir des écoles. C'est s'intéresser d'abord à ce qui est écrit. D'autres écrits que le Coran et les paroles du prophète, puisqu'il s'agit de sciences profanes. Premier intérêt qui est apparu chez les califes, c'est lorsqu'il fallait consolider l'empire, donc il fallait connaître quand même les techniques de guerre, les techniques de protection, mais aussi les techniques de l'astrologie pour prédire l'avenir, pour garder le pouvoir, la chimie pourquoi pas, pour les armes en particulier. Et donc, on peut considérer qu'il y a eu sûrement des initiatives. Et puis à côté de cela, il y a d'autres initiatives. On n'a pas l'impression que ça va servir la science, mais en fait, ce sont des éléments, sans eux, plus tard, on ne peut pas faire de science. Ce sont par exemple les bibliothèques. Mmh. Alors, la première bibliothèque financée par un calife, à notre connaissance, a été réalisée, a été ouverte, a été aussi alimentée par des ouvrages. Ça a eu lieu entre 705 et 715, c'est la période du règne du calife Omeyyade el-Walid. Alors, 705-715, c'est vraiment la période où les premiers cavaliers et fantassins maghrébins, berbères, sont en train de conquérir l'Espagne. Parce que la conquête a eu lieu 710, ensuite 711, ensuite tout le long, il fallait pacifier, entre guillemets, et contrôler le territoire. Et donc, c'est pas par hasard aussi que, parmi les ouvrages très riches, très important, etc., du moins pour un nouveau pouvoir qui n'avait rien. Eh bien, ce sont des ouvrages qui vont être rassemblés dans le cadre du butin qu'ont récupéré les soldats dirigés par Tariq ibn Ziyad, le fameux général berbère, qui a dirigé la conquête musulmane en Espagne.
Oui.
Nous avons des informations d'historiens qui disent, parmi les livres qui vont alimenter la première bibliothèque califale, eh bien, il y a eu le butin envoyé par Tariq ibn Ziyad. Ensuite, il y a une deuxième information intéressante. C'est un prince, un très grand prince, Khalid ibn Yazid. Alors, on raconte qu'il aurait refusé d'être calife, vous vous rendez compte?
Par c'est amour, rare.
Oui, par amour du savoir.
Oui.
Même si c'est sûrement une part de légende construite, de mythe construit, ça veut dire qu'à un moment donné, on a considéré qu'il fallait mettre en avant que la science était mieux que le pouvoir. Et on a échafaudé toute une histoire qui a peut-être un fond de vérité.
Oui.
Et qui est que Khalid ibn Yazid, qui était promu à un destin peut-être extraordinaire de calife, il a préféré s'occuper de science. Il aurait été le premier à financer de sa poche. De sa poche, quand même, c'est de l'argent de l'État. Hein.
Est-ce que c'est vraiment du mécénat? Le mécénat, selon la définition, c'est lorsque des institutions non politiques financent les travaux ou les recherches de manière vraiment désintéressée, à but non lucratif, j'ai envie de dire.
C'est ce qui lui est arrivé.
Ah, c'est ça.
Lui, il l'a fait à but non lucratif, par amour de la science. Il avait beaucoup d'argent. Il a fait traduire, dit-on, des livres de chimie, des livres d'astrologie. Pas seulement pour lui. Mm-hmm. Bon, s'il est passionné, ça lui servira. Et puis ensuite, il va autoriser les autres, les gens, à copier. Donc c'est quand même du mécénat.
D'accord.
Et puis le mécénat institutionnel est moderne, en fait. Le mécénat, en pays d'islam, a été toujours individuel, même si ça s'inscrit dans une volonté politique de quelqu'un qui représente l'État, l'institution.
Oui, oui. Oui, oui.
Mais c'était une volonté individuelle. C'est pas, par exemple, écrit comme ça dans une politique de l'État, nous allons construire tant de routes, tant de ponts, etc.
Mm-hmm.
Non. Un jour, le mécène, le grand mécène, décide de financer telle ou telle activité scientifique. Comme d'ailleurs, il finançait les poètes.
Oui, les poètes, oui, voilà. Les musiciens, oui, c'est classique.
Parce que les poètes le glorifiaient. Ben, la science, c'est pour d'autres raisons. Donc voilà pour la première période.
La seconde période?
C'est la période des Abbassides, bien sûr.
Oui, c'est la plus faste.
Vous l'avez signalé dans l'introduction.
Oui, effectivement.
Là, il y a d'abord Al-Mansour, le premier calife, qui a régné de 754 à 775. On sait que c'est lui qui a financé les premières traductions scientifiques, du moins on en est sûr cette fois. Il y a des recoupements. Il n'y a pas que l'information de ceux des bibliographes qui racontent parfois des semi-légendes, mais il y a des scientifiques eux-mêmes qui savent que les premiers livres indiens, par exemple, ont commencé à être connus parce que Al-Mansour a donné ordre à un de ses ministres de financer la traduction d'ouvrages indiens. Et donc Al-Mansour va financer des ouvrages d'astronomie indienne. Il aurait financé la première traduction des éléments d'Euclide, qui est vraiment la Bible de la géométrie, hein. Ça, c'est un point d'interrogation parce que nous, en tant que chercheurs, nous n'avons pas encore trouvé trace écrite de la confirmation de cette information, qui peut être peut-être une légende,
mm-hmm.
mais toujours dit qu'on lui attribue le financement de cette traduction, qui est un gros travail quand même. Un travail d'équipe parfois. Hein. Il aurait financé aussi la traduction du livre Arithmétique, un livre connu hein, de Nicomaque, et il aurait financé la traduction du livre de médecine, parce que là, quand même, ça sert.
Utilité publique.
Voilà, ce n'est pas vraiment du mécénat parce qu'elle lui sert, puis après, ça devient du mécénat, puisqu'à partir du moment où il finance une traduction, évidemment, le mécénat intervient dans le fait qu'il autorise n'importe qui, dès qu'il a les moyens de copier, donc à copier sa traduction et à l'utiliser pour lui-même. Ensuite, après le mensonge, il y a le Mahdi. C'est une filiation, et parce que c'est une filiation sur quatre générations, ça va donner une dynamique. Et cette dynamique, il manquera plus tard que d'être relayé, parce que la dynamique des princes ne suffit pas. Donc il y a eu le Mahdi, son fils, qui va régner de 775 à 785. Alors lui, il s'est intéressé beaucoup plus aux traductions de textes de philosophie, parce que, en fait, les débats intenses, mais très civilisés, sur la religion, ont amené les musulmans à s'armer intellectuellement et à essayer de connaître les outils du débat, les outils déjà étudiés, déjà enseignés par les Grecs et qui étaient connus comme étant les outils indispensables pour bien débattre, en particulier pour des questions religieuses. Et donc là, il a fait traduire les topiques d'Aristote. Et puis Harun al-Rachid qui, lui, aurait pris deux initiatives très très importantes qui nécessitent un mécénat qui coûte beaucoup plus cher. Il aurait été le premier, en fait, ce n'est pas son fils, à avoir commencé la construction de Beit al-Hikmah, la maison de la sagesse, qui est une institution. Et donc, cette Beit al-Hikmah, il l'aurait financée, son fonctionnement, parce qu'il ne suffit pas de construire une fondation.
Ah oui, après, il faut alimenter tout ça.
Bien sûr, il a sûrement donc financé aussi la copie de livres, la recherche de livres, etc. Donc, c'est un mécénat qui commence à gonfler, vous voyez.
Mm-hmm.
Ce n'est plus des mécénats ponctuels, parce que le mécène a envie de connaître telle ou telle chose, ou bien il a envie de faire plaisir à tel ou tel individu. Un des éléments aussi, il aurait été le premier à construire un grand hôpital à Bagdad. Les spécialistes ont remis en cause cette information, ils la mettent sur le dos aussi des reconstructions postérieures. Toujours est-il que c'est dans le cadre du mécénat que les premiers hôpitaux vont être construits. Et là, il fallait beaucoup d'argent, donc il fallait un mécénat d'État, c'est-à-dire que ce sont des califes, qui, pas au nom de l'État, mais au nom de leur générosité, de leur amour de la science, de leur amour aussi, de leur compréhension de leur société, parce que les hôpitaux, c'est pour soigner. Donc ils vont financer, à fond perdu, à la fois la construction et surtout le fonctionnement, parce que l'hôpital doit fonctionner tous les jours. Et Haroun Rachid aurait aussi financé quand même des traductions indirectement, puisqu'on sait qu'on lui a dédié en particulier une traduction des éléments d'Euclide, qui a été faite par Al-Hajjaj, ça on le sait. Et puis il a financé aussi d'autres livres, comme l'Al-Majaz de Ptolémée et d'autres. Alors arrive le Ma'moun. Alors le Ma'moun, il mériterait évidemment une émission.
À lui tout seul.
Ah oui, oui, oui. Et donc lui, c'est l'apothéose du phénomène de traduction. Tout livre qui pouvait être financé et dont était informé le calife Ma'moun, il finançait la traduction. Il a financé non seulement la traduction, mais il a financé des équipes scientifiques. Il les aurait envoyées à Byzance, il les aurait envoyées à Alexandrie, dans des petits monastères qui étaient dans le croissant fertile, à la recherche de manuscrits, parce que là, ça coûte cher. Parce que ça, c'est au hasard, c'est comme nous. Nous, nous sommes chercheurs. Moi, ça fait 30 ans, je cherche des manuscrits. Il n'y a pas de règles. Je vais dans les bibliothèques, dans le monde. Là, j'ai un avantage sur eux, c'est que je connais les bibliothèques publiques.
Oui.
Mais les bibliothèques privées, je ne les connais pas, comme eux. Il faut qu'ils utilisent leur réseau, leurs relations. C'était vraiment les aventuriers de la science, les pionniers de la science. Et figurez-vous qu'on en parle très peu, ces gens-là, parce qu'on va parler des grands savants qui vont profiter de leur travail.
Oui.
Mais ce sont eux qui ont vraiment apporté les pépites. Et alors sur ça, on a construit évidemment des légendes. Alors, on a construit en particulier la fameuse légende que rapporte Ibn al-Qifti, qui est qu'Al-Ma'moun aurait menacé l'empereur de Byzance de lui déclarer la guerre s'il ne donnait pas à la mission qu'il lui a envoyée. Alors on sait que la mission a réellement été envoyée vers Byzance, mais il l'aurait menacé de guerre si l'empereur de Byzance ne prêterait pas les livres d'Euclide, de Galien, d'Archimède, vous rendez compte, d'Hippocrate, à la mission pour qu'elle les ramène à Bagdad, qu'on traduise et qu'on lui rende plus tard.
Ça fait vraiment amour de la science.
Voilà, en tout cas, ces mythes sont construits sur des réalités historiques. Il y a une mission dont on connaît même tous les membres, qui sont allés à Byzance et qui ont même participé aux traductions. Ça va continuer plus tard, bien sûr. Mais les historiens ont gardé surtout les témoignages sur les quatre premiers califes.
Les premiers califes abbassides, on vient de le voir, ont été extrêmement généreux et de grands mécènes pour les activités scientifiques. Et qu'est-ce qu'ils y gagnaient finalement à financer les activités scientifiques?
Oh, d'abord, des opérations de prestige. Après tout, c'est un calife puissant. C'est un calife inégalé à l'époque.
Donc l'image de marque, d'abord.
L'image de marque, et puis surtout vouloir imiter tous les empereurs qui l'ont précédé. Ce sont des gens qui ont été informés par leur sujet, qui était d'origine grecque, d'origine persane. Les persans ont eu une grande histoire de mécénat avant l'islam. Ils ont eu des empereurs. Le dernier, Khosrow Anushirwan, qui a financé, qui a même protégé des philosophes qui avaient fui la répression des chrétiens de la Grèce, parce qu'elle était christianisée, et des Byzantins. Lorsque Justinien a fermé l'école d'Athènes, ils ont été reçus à Gundishapur, c'est ce qu'on raconte, par le grand empereur persan, Khosrow. Donc il y a de vieilles traditions. Or, la Perse est devenue musulmane. Et donc les empereurs, les califes abbassides, sont devenus califes en battant les Omeyyades grâce au soutien très très puissant, grâce au soutien des forces politiques persanes, des forces sociales persanes, qui vont être au pouvoir d'ailleurs chez les abbassides, et qui vont encourager beaucoup les sciences, parce qu'ils avaient déjà une mémoire de la science, une culture de la science. Vont être aidés aussi par les Syriaques, qui avaient une habitude de la science et de la philosophie, et par tous les citoyens non musulmans, mais qui étaient anciens sujets de Byzance. Donc là, tous ces sujets qui étaient l'élite, voyaient très bien, d'un bon œil, un empereur qui est à l'image des empereurs persans, à l'image des empereurs de Byzance d'avant,
oui,
des empereurs grecs comme Alexandre.
Généreux, ouvert.
Voilà, donc l'image de marque. Quoi. L'image de marque, ça c'est une première chose. Il y avait aussi quand même des nécessités politiques, on n'en parle pas beaucoup. Des nécessités politiques, idéologiques ou sociales. Quand on construit des mosquées, on construit des mosquées pour que les citoyens quand même disent « Ah, l'État s'occupe de nous ». Et on a construit des mosquées cathédrales parce qu'il faut construire des choses prestigieuses. Mais ces mosquées, on les construisait, on fait du mécénat en fait, parce qu'on fait 5 prières par jour, tout le reste du temps, eh bien on donne des cours. C'est les cours supérieurs. Et les mosquées vont jouer le rôle de mini-université pendant plusieurs siècles. Du moins les mosquées cathédrales.
Oui.
C'est là où les grands professeurs, d'ailleurs ils avaient des lieux attitrés, on appelle ça des colonnes, chacun avait sa colonne. Et puis les étudiants venaient, ils savaient à quelle heure, en particulier le soir, et ils venaient assister à des cours de niveau international. Demande sociale, c'est construction et fonctionnement des hôpitaux. Les hôpitaux, ça a été réellement une politique, d'abord d'État, avant qu'elle devienne une politique d'un mécénat privé. Le calife, évidemment, tirait la couverture à lui, il disait, c'est moi, c'est ma générosité. Mais c'est l'argent de l'État. C'est l'argent du butin d'abord, puis c'est l'argent des impôts. Il construisait des palais en même temps. Peut-être qu'en construisant un palais et un hôpital, eh bien, ça excusait le fait qu'il ait construit un palais.
Il compensait, quoi.
Un dernier élément, à partir de la fin du XIe siècle, l'État va intervenir avec un mécénat. Ce n'est plus des individus qui, étant dans l'État, ou des califs étant dans l'État, vont utiliser l'argent du contribuable, comme on dirait aujourd'hui, pour construire des choses de prestige ou qui servent à la société. À partir de la fin du XIe siècle, pour des raisons de lutte idéologique entre chiites et sunnites, orthodoxes et non orthodoxes, comme les chiites avaient développé beaucoup les bibliothèques, avaient développé beaucoup ce qu'on appelle les dar al-ilm, les maisons de la science, par opposition à la maison de la sagesse. Mm-hmm. Ils enseignaient la science, la philosophie, ils enseignaient aussi leur idéologie chiite qui n'était pas acceptée par les orthodoxes. Et donc les orthodoxes, à un moment donné, nous sommes à la fin du XIe siècle, ils ont considéré que c'était un danger. Pourquoi ? Parce que ce danger devient plus visible lorsque les Fatimides, venant du Maghreb, ayant constitué une force politique au Maghreb, vont occuper le Caire, vont créer la nouvelle capitale, le Caire, et vont avoir la prétention de vouloir récupérer Bagdad. Et donc, les sunnites étaient coincés par les chiites, entre les chiites d'Asie centrale, et puis ils étaient coincés donc à l'est par les rois chiites, et à l'ouest par le nouveau danger d'une puissance économique et politique redoutable, par une puissance fatimide qui était chiite. Donc, comme les chiites avaient une technique de lutte idéologique secrète, c'est la batiniya, pour les combattre facilement, il fallait qu'on lui inculque l'idéologie orthodoxe. Donc, on va créer des institutions supérieures, les ancêtres des universités, on va les appeler des madrasas, mais le mot technique va vouloir dire uniquement collège supérieur, pas école. Et on les appelle les madrasas nizamiya. Pourquoi ? Parce qu'elles vont être fondées pour la première fois par Nizam al-Mulk, qui est le premier ministre du nouveau pouvoir seljoukide qui avait finalement récupéré le pouvoir des Abbasides, qui gouvernaient de manière formelle, mais c'était les militaires turcs. Et donc Nizam al-Mulk va créer une première madrasa, et comme par hasard, parce qu'il y avait là une demande, partout où étaient les orthodoxes, eh bien, ils vont financer des madrasas qui sont du même type. Ce qui fait qu'il y a eu des dizaines de collèges supérieurs, de Samarcande jusqu'à l'ouest, au Maghreb, et en Espagne, à Grenade en tout cas. Et c'est sur le même modèle. Les nouvelles institutions d'enseignement supérieur étaient totalement financées par l'État, le fonctionnement financé par l'État, les professeurs payés par l'État, mais à une condition, le recrutement devait être fait sous le contrôle de l'État, sous-entendu de l'État orthodoxe. Et donc on n'acceptait plus de chiites, même si c'était un très grand savant. Donc en fait, c'est un mécénat politique.
Est-ce qu'il y a eu des groupes sociaux qui ont soutenu le développement des sciences ? Et à la limite, quels groupes ?
Après la dynamique créée effectivement par des grands mécènes, en particulier Abbasides, il va y avoir une dynamique dans la société, et c'est des membres de la société, des élites, de différentes couches sociales d'ailleurs, et plus tard ça va être même les couches sociales très modestes, qui vont apporter chacun leur petite contribution pour soutenir les sciences. Mais déjà au 9e siècle, il y avait des princes. Tous les princes qui étaient autour du calife, ben, voulaient imiter le calife. Il y avait les généraux, de grands généraux, nous avons les noms, vous vous rendez compte. Le chef d'état-major de l'armée d'Al-Ma'moun se permet de financer la traduction d'ouvrages médicaux. Et il ne le fait pas par calcul, hein, parce qu'il est dans une ambiance globale où les généraux aussi participent à cette promotion du savoir et de la science. Il y a eu aussi les grands personnages de l'État, donc des ministres. Ah, nous connaissons des ministres, des chanceliers, etc., qui ont financé beaucoup, beaucoup, parfois même plus que le calife. Et il y a eu les hauts fonctionnaires des administrations. Alors cela avait intérêt à financer aussi, parce que c'était soit des persans, soit des chrétiens d'origine syriaque, soit des païens d'origine syriaque ou grecque. Et donc le fait qu'ils se lançaient dans cette dynamique, eh bien ils s'inséraient encore mieux dans la société, et ils devenaient incontournables parce que leurs enfants, leurs proches, etc., vont bénéficier de toute cette manne qui va tomber, parce qu'on va chercher les traducteurs non pas chez les Arabes, mais chez toutes ces communautés qui étaient minoritaires et qui voulaient surtout ne pas perdre leurs privilèges. Les historiens de la sociologie des sciences expliquent comme cela cet engouement pour développer les sciences. Ce n'était pas seulement pour imiter le calife et lui faire plaisir. Et puis il y a eu deux autres catégories. Il y a eu les hommes de science eux-mêmes. Soit parce qu'ils ont acquis un statut et donc du coup il y a des retombées matérielles. Et ils vont s'occuper de la traduction. Ils vont financer des gens qui vont chercher les manuscrits. Contrairement aux autres qui faisaient une politique de prestige générale, eux ne vont faire traduire que les livres qui intéressent leur spécialité. Et donc là on voit bien que ça devient encore plus intéressant. Le premier mécénat était un mécénat culturel. Mais il pouvait ne pas faire avancer la science, parce qu'il était un peu trop dispersé, une sorte de saupoudrage.
Oui.
Là, maintenant, on cible. Et quand on cible, ça veut dire que ce sont des gens qui veulent que telle discipline se développe. Et comme il va y avoir de l'émulation, chacun va financer sa discipline. Et donc, il y a des gens qui vont financer des manuscrits qui peuvent faire avancer l'astronomie. D'autres, c'est des manuscrits qui vont faire avancer la mécanique. Et enfin, la dernière catégorie, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Cette tradition rare, peut-être unique, dans l'histoire de l'humanité, on la trouve en pays d'islam. Moi, je vous donne quatre exemples. Il y en a un dont on a parlé déjà. Au 9e siècle, un roi, Arlabit, de l'Ifriqiya au Maghreb, Ibrahim II, il a régné de 875 à 902, il était passionné d'astronomie, mais il était roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va s'auto-financer. Il est mécène pour lui-même, pour sa discipline. Donc là, il va utiliser l'argent de l'État lui-même, mais pas uniquement pour faire plaisir aux savants, pour lui-même. Et il va laisser donc une bibliothèque, il va laisser des instruments, il va financer des instruments qui coûtent cher, comme les astrolabes, etc. Donc il est connu comme étant un de ceux qui vont financer la science au Maghreb oriental. Le deuxième, on en a parlé beaucoup, on lui a consacré une émission, c'est le Mohtamen.
Le grand petit roi de Saragosse.
Voilà, qui est du 11e siècle. Eh bien, il était mathématicien, philosophe, et il était roi. Il va envoyer des émissaires en Orient qui vont lui acheter les livres les plus rares, et parfois les livres récents. C'est comme ça qu'il a eu un livre qui venait pratiquement d'être publié par Ibn Laytham, qui est mort en 1041, des livres de très haut niveau, collés à l'actualité scientifique. Il y a quelqu'un qui est moins connu, il s'appelle Al-Malik Al-Ashraf. C'est un roi du Yémen. Nous sommes au XIIIe siècle. C'était un passionné d'astronomie. Et il nous a laissé des manuscrits qui ont été étudiés, en particulier la description d'un astrolabe. Et il nous a laissé surtout un des premiers écrits très rares qui décrit la boussole. Et donc c'est un des témoignages, grâce à lui d'ailleurs, comme il est au Yémen, donc on voit bien, près de la mer, etc., etc. Il décrit une boussole tout à fait élémentaire, tellement élémentaire qu'on pense que grâce à ce témoignage, on peut affirmer peut-être que c'est une réinvention du concept chinois, parce que si elle avait été trop élaborée, il aurait dit qu'on l'empruntait aux Chinois.
Oui, c'est ce que vous avez dit dans l'émission sur la navigation.
Voilà. Mais ce n'est pas mauvais de temps en temps de répéter des choses.
Effectivement.
Et le dernier exemple qui n'est pas connu, c'est Uluk Bek. Alors ça, déjà, c'est un nom qui n'est pas arabe.
Il plutôt mongol.
Il est mongol. Et un des descendants de ces fameux mongols qui ont beaucoup détruit avant de construire. Alors ce monsieur est un savant d'abord. Il nous a laissé des tables astronomiques d'une finesse et d'une hauteur de vue inégalable. Il a financé de sa poche un observatoire, c'est le deuxième grand observatoire qui a été construit en islam au XIVe siècle, à Samarcande, et il va diriger une équipe de scientifiques. Donc non seulement il va financer, il va donner des ordres pour payer les fonctionnaires, les techniciens, les ingénieurs, payer les professeurs, il va choisir une équipe de professeurs, dont le plus éminent, qui va être son adjoint pratiquement, qui va diriger l'observatoire, c'est le fameux Al-Kashi. Jamshid Al-Kashi, qui est un mathématicien mort en 1429, et qui est l'un des derniers grands mathématiciens. Il est d'origine persane.
Donc ce sont les mécènes du côté oriental. Alors du côté occidental, en Andalousie, est-ce qu'il y a eu des mécènes aussi connus?
Alors en plus de celui que j'ai évoqué évidemment à Saragosse, le Mohtamen, il y a eu un phénomène continu de mécénat depuis que la dynastie Omeyyade s'est installée à Courtou. Elle s'est installée donc au 8e siècle, au moment où les Omeyyades sont chassés de Damas. Un des descendants Omeyyades, c'est Abdelrahman Ier, qu'on appelle d'ailleurs Abdelrahman Dakhil, c'est-à-dire l'immigré. C'est le premier immigré arabe en Europe. Il s'installe donc à Cordoue et il devient roi pour montrer que les Omeyyades ne sont pas en dessous des Abbasides. Donc cette émulation, et surtout entre Omeyyades et Abbasides, il va dire « Moi, je vais montrer que je suis un continuateur des Omeyyades et que nous aussi, nous savons pratiquer le mécénat. » Et donc il va financer. Son fils Abdelrahman II va faire la même chose. Abdelrahman III va faire la même chose, mais toujours à des niveaux beaucoup plus grands. Son fils, Al-Hakam II, va encore faire la même chose.
Encore plus grand.
Plus grand. De manière précise, Abdelrahman II, c'est lui qui va financer la première mission qui va aller en Orient pour acheter des livres, soit des traductions d'ouvrages grecs en arabe, soit des ouvrages arabes qui commençaient à être publiés au 9e siècle. Nous connaissons le nom du chef de la mission qui a été envoyé, qui était un homme de science. C'est Abbas ibn Nasih, qui va en mission peut-être même deux fois, qui à chaque fois a une mission précise, acheter le plus de livres possible sur la grammaire, sur la philosophie, sur les sciences, la technologie, etc. Et ces livres vont être recopiés bien sûr. Sinon, les premiers hommes de science d'Andalus n'auraient jamais eu les moyens d'avoir tous ces livres-là. Ce qui expliquerait aussi d'ailleurs pourquoi l'Andalus, qui a démarré en retard par rapport à l'Orient, avec un décalage, va à partir du XIe siècle rattraper le niveau de l'Orient et atteindre le niveau de l'Orient. Et la production scientifique en Andalus va dans certains domaines être pratiquement du même niveau que la production de l'Orient, qui avait quand même une avance de presque un siècle. C'est lié en fait à une sorte d'osmose qui a eu lieu dans tout l'Empire où la circulation a été très rapide. Ensuite, il y a Abdelrahman III, il est du Xe siècle, il va financer la traduction des livres de pharmacopée, la Materia Medica de Dioscoride, un très beau livre grec, tout simplement parce qu'il l'avait reçu comme cadeau d'un empereur de Byzance qui était son collègue à l'époque. Pour montrer à son collègue qu'il était touché par ce cadeau et qu'il lui donnait l'importance qu'il fallait lui donner, eh bien, il a ordonné qu'il soit traduit en arabe alors qu'il avait déjà été traduit en Orient. Et pour montrer maintenant, on va le traduire mieux que nos amis d'Orient. C'est lui aussi qui va financer les jardins agronomiques, botaniques. Donc c'est de la science. Et enfin, Al-Hakam II, le dernier grand mécène à l'Andalus. Il va financer une très riche bibliothèque qui est même devenue mythique à tel point que les gens exagèrent. Ils disent qu'il y avait 400 000 livres dedans. Mm-hmm. On a retrouvé une information disant que le catalogue de cette bibliothèque contenait plusieurs livrets. On a calculé, on a pensé qu'il y avait 400 000. Ça dépend de la grandeur du livret, ça dépend de l'écriture. Donc ça peut être 40 000. À cette époque, un empereur européen, comme Charlemagne, quand il avait une bibliothèque, il devait avoir en plus de la Bible, deux ou trois livres pour faire joli. Non mais c'est la vérité, c'est pas vraiment de la médisance. Hein. C'est raconté par Jacques Le Goff, hein, qui est l'un des plus grands médiévistes français quand même. Donc, je ne peux pas me permettre. À cette époque-là, à quelques centaines de kilomètres au sud, donc dans l'empire où la science s'était développée, où la philosophie s'est développée, eh bien, quelqu'un arrivait à financer une bibliothèque qui faisait au moins 40 000 livres.
Il y a vraiment deux mondes. Hein. Alors, ça c'est un Andalous. Au Maghreb aussi, je suppose qu'il y a eu des mécènes, et on dit que le premier, ou plutôt que la première mécène du Maghreb a été une femme, c'est vrai?
Tout à fait. Il semble même que les premiers mécènes étaient des femmes. La première qui est connue s'appelle Fatima Om El Benin. Son père serait originaire du Kairouan, donc du Maghreb oriental. Et puis il s'est installé à Fès. C'est elle qui, avec la fortune que lui a léguée son père, elle a construit la fameuse mosquée de Qarawiyyin qui existe aujourd'hui, hein, qui est un monument superbe. Oui. Elle l'aurait construite en 859. Vous voyez, nous sommes en plein 9e siècle. Et sa sœur, elle a construit une autre mosquée superbe à Fès. Mais c'est Fatima qui est restée la plus célèbre. Ensuite, ce mécénat a continué au Maghreb. On cite aussi une autre femme qui s'appelle Mas'ouda, Wazkitiya. Elle doit être berbère, hein, parce que quand même, ce nom n'est
pas très... Oui, effectivement, il y a la connotation. Hein.
Elle est la mère d'un grand sultan, Al-Mansour, qui gouvernait dans le Maghreb extrême. Et nous sommes au XVIe siècle. Oui, le mécénat continue. Eh bien, elle a construit une grande mosquée. Mais alors que les autres ont construit des mosquées, donc on peut considérer que c'est un mécénat religieux. Elle a construit une mosquée, une grande bibliothèque, et elle a financé des chaires d'enseignement, comme aujourd'hui, c'est une chaire. Mm-hmm. Par exemple, une chaire de grammaire. Celui qui était nommé à la chaire de grammaire, à vie, il avait un salaire. Avait un logement, et c'était payé par cette charmante dame qui s'appelle Mas'ouda. Elle l'a bien nommée.
Est-ce qu'il y a eu d'autres mécènes au Maghreb? Et est-ce qu'il y a eu d'autres femmes à part Mas'ouda et la première, rappelez-moi
Fatima Mol Benin et Mariam.
Et Mariam.
Alors, je n'ai pas trouvé d'autres femmes parce que je n'ai pas eu le temps beaucoup de chercher. Mais nous savons que les femmes des princes, les femmes des rois, etc., avaient leur part de fortune et qu'elles utilisaient leur argent pour des actions de bienfaisance. Souvent. C'était presque une règle générale. Alors, pour le Maghreb, alors là, il suffit de revenir au début puis de monter à l'échelle du temps. Figurez-vous que déjà, un mécénat a commencé par une dynastie berbère, purement berbère. C'est la dynastie Kharijite de Taherte, dans le Maghreb central, près de Tiaret. Mm-hmm. Et les dirigeants de cette dynastie, on ne les appelait pas des rois, on les appelait des imams. Eh bien, l'imam Aflah, par exemple, qui est bien connu, hein, à Gardaïa, il est bien connu, l'imam Aflah.
Hein,
et à Bignesgen, à Oman aussi. C'était un grand roi, et c'était un roi intellectuel et savant. Et nous avons des informations de son biographe qui dit qu'il a fait beaucoup de choses pour la science. Donc il a dû sûrement financer une bibliothèque, il a dû sûrement financer l'achat de livres d'Orient, et ça coûtait cher. Donc il a probablement envoyé des missions, mais c'est quelqu'un qui est présenté comme étant au-dessus de tous les imams kharijites qui a aidé la science. Qui a donné une première impulsion à la science dans cette dynastie, jusqu'au moment où les Fatimides vont venir et ils vont abattre ce pouvoir. Il y a, au 9e siècle, à la même époque, par émulation aussi, et aussi par imitation de Bagdad, les Arlabides de Kairouan. On dit, alors maintenant les archéologues n'arrivent pas à trouver les confirmations, etc., mais il y a des témoignages, qu'ils ont voulu imiter les initiatives de Harun al-Rashid et de Ma'moun, et ils auraient fondé une Bayt al-Hikmah, une maison de la sagesse. En tout cas, Hassan Husni Abdel Wahab, qui est un grand historien de l'histoire culturelle de l'Ifriqiya, l'affirme et donne des témoignages, etc. En tout cas, nous savons aussi que cette Bayt al-Hikmah a été dirigée par des scientifiques, comme Ibn Yusr al-Shaybani, qui était un astronome, qui était un des dirigeants de cette Bayt al-Hikmah. Après les Arlabides, on arrive au 10e siècle, on n'en parle pas beaucoup au Maghreb, alors qu'on en parle beaucoup en Égypte, 10e, 11e, parce qu'au Maghreb, il y a eu une sorte de tabou qui s'est installé sur cette dynastie, qui est la dynastie Fatimide. Elle n'est pas malikite. Elle est chiite, ismaïlienne, et donc du coup, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, dans les programmes, sont évacués. Même dans les thèses, on ne fait pas assez de thèses sur cette période, qui a été une période florissante en science aussi. Même si elle correspondait à une idéologie qui était complètement différente. Et donc, Bayt al-Hikmah a été conservée, ils ne l'ont pas détruite parce que c'était des sunnites avant. Ils ont développé encore l'astronomie, et ils ont eu même des califes qui étaient des hommes de science, ou du moins qui se préoccupaient de la science. Et le plus célèbre, le khalifa al-Mu'izz, al-Mu'izz l'idinillah. Et bien, c'est lui qui aurait inventé le fameux stylo à cartouche.
Ah si, alors là vous nous en avez parlé, un stylo en or.
Mais ce qui est important aussi, c'était pas seulement un bricoleur, c'était un mécène convaincu de l'importance de la science et de la philosophie. Il se servait lui-même d'abord, et puis il créait toutes les conditions pour que la science se développe. Malheureusement, l'écriture de l'histoire scientifique de la période fatimide n'a pas encore été faite. Peu de documents. Et il y a eu ensuite les Almohades, grande dynastie, qui voulaient imiter les califes de Bagdad, puisque se sont décrétés califes eux aussi. Et ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des madrasas, ils ont construit de grandes mosquées, et en particulier un hôpital qui a impressionné tout le monde, et qui est décrit, c'est l'hôpital de Marrakech, qui était financé totalement par le calife. Totalement. Oui. Et il y a au XIVe siècle, deux autres dynasties, moins puissantes, mais aussi concernées par le mécénat, les Mérinides, dans le Maghreb extrême, qui vont construire des madrasas exactement selon le modèle des madrasas orthodoxes, parce que eux aussi voulaient combattre l'idéologie des Almohades et des Fatimides qui les ont précédés. Mm-hmm. Les Fatimides étaient chiites, les Almohades c'était une sorte de mélange d'orthodoxie et de chiisme. Ça ne plaisait pas du tout aux Malikites. Quand le nouveau pouvoir était soutenu par les théologiens Malikites, et parce qu'ils étaient convaincus, c'est vraiment le retour du sunnisme, ils vont construire des madrasas à Fès. Ils ont construit deux madrasas, la Bouinaniya et une autre, la Atarin. Et ces madrasas existent jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a une, Bouinaniya, je crois que c'est elle, superbement décorée, avec des chambres pour étudiants, des salles d'études, et même une horloge fantastique qui fonctionnait le jour et la nuit. Et une horloge évidemment construite par un technicien, un ingénieur qui savait gérer tout ça. Et enfin, la dynastie de Tlemcen, elle a construit des madrasas, plusieurs madrasas. C'est la dynastie des Abdelwadid. On a le témoignage d'un mathématicien du XVe siècle, Al-Qalasadi, qui est mort en 1486, qui était d'origine andalouse, avant la chute de Grenade. Il a fait sa pérégrination, il s'est formé en Andalous, et puis il va, dit-il, étudier chez les grands professeurs. Il va à Tunis, puis on lui dit, il y a de grands professeurs à Tlemcen. Eh bien, il arrive à Tlemcen et il décrit, d'abord j'ai été étudiant chez tel professeur qui a bénéficié d'une madrasa construite par le pouvoir. Et puis ensuite il a dit, je suis allé étudier d'autres matières dans une autre madrasa qui a été construite par tel roi avant celui qui existe maintenant. Et donc ces madrasas avaient les noms des bienfaiteurs et même système. Et les étudiants étudiaient gratuitement. Ils étaient pris en charge, le gîte et le couvert comme on dit.
On a surtout évoqué, disons, de grands personnages. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas ce qu'on pourrait appeler des mécènes anonymes, des privés, des personnes qui auraient eu aussi cette générosité de cœur et d'âme pour permettre l'essor des sciences? Alors, est-ce que ça existait? Comment est-ce que ça fonctionnait? Et ça concernait quel domaine d'activité?
Alors, déjà dès le 9e siècle, il y avait des individus mécènes qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir en tant que tel. Ils n'étaient pas dans le pouvoir, mais ils avaient de l'argent, donc ils étaient mécènes. Ils construisaient des lieux d'enseignement. Par exemple, les professeurs de médecine, quand ils étaient riches, ils enseignaient dans les hôpitaux, mais ils enseignaient chez eux, où il y avait à la fois le lieu d'enseignement, le lieu de soins aussi, parce qu'il avait un cabinet privé, et le lieu d'habitation. Les astronomes étaient leurs propres mécènes et leurs étudiants. Pourquoi? Parce que quand ils avaient une belle maison dans une petite montagne, les astronomes avaient besoin de petits observatoires, et ça faisait profiter les étudiants. Mais il y a un autre phénomène. Ce phénomène va se développer réellement, comme vous dites, de manière anonyme. C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner des noms. Et ça va se développer jusqu'au XVIIIe siècle. C'est lorsque, à un moment donné, dans la société, de plus en plus de personnes, avant de mourir, et parce qu'ils avaient un héritage, une petite fortune, ils laissaient des donations, parce qu'en islam, on a le droit.
Oui.
On laisse au maximum le tiers, on peut en disposer comme donation. Cette donation, on écrit un texte de la donation, et on dit, je veux que cette donation
aille au profit de
telle ou telle action. C'est souvent des actions en faveur soit de la religion, soit de la science. Donc il y a eu comme ça des milliers et des milliers et des milliers, on n'a pas les noms. Et à ce moment-là, d'après les spécialistes, lorsque ce phénomène est devenu sociétal, plus des groupes de l'élite, eh bien les juristes se sont dit, mais quand même, il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc on a créé un système juridique pour protéger le mécénat. Parce que quand c'était des puissants qui finançaient, l'argent n'était pas détourné, sinon il y avait la répression. Mais quand c'était des citoyens comme vous et moi, il y a eu l'apparition du système du waqf, c'est-à-dire le système de gestion des biens de main morte. On l'appelle aussi le habous. Quelqu'un laisse une donation, wasiya, comme on dit, wasiya, c'est un terme juridique, il laisse ses conditions, il laisse la source de financement, qui est soit une manufacture, soit des terres, soit un immeuble de location. Et il disait, je veux construire telle chose. Parfois, il le construisait de son vivant. Mais pour la pérennisation, pour que ça dure, il fallait qu'il y ait un financement après sa mort. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le développement du mécénat anonyme qui a amené à mettre de l'ordre dans ce mécénat et à le protéger. Et en le protégeant et en créant donc un système juridique, ça va évidemment développer encore plus.
Bien sûr.
Parce que les gens étaient sécurisés. Par exemple, moi je suis là, vous êtes ici, j'ai une bibliothèque qui est très rare parce que j'ai mis 35 ans pour la réaliser. Et elle est spécialisée. Elle ne concerne que l'histoire des sciences des pays d'islam et encore essentiellement les mathématiques des pays d'islam. Aucune personne dans le monde n'a une bibliothèque comme celle-là parce que j'ai mis 35 ans pour la réaliser. Si je veux faire une action, il y a quand même un hadith du prophète qui a fonctionné pendant des siècles et des siècles et que les gens appliquaient et qui disait que ce qui reste après la mort de quelqu'un, c'est en particulier une action en faveur de la science. Eh bien, moi je peux écrire une donation et dire, toute cette bibliothèque, ma famille n'a pas le droit de la vendre. Non, je précise, elle doit rester telle qu'elle et la donner à telle institution, telle bibliothèque, même si elle est à 10 000 km. Parce que je considère que là-bas, il y a une tradition scientifique qui va préserver tout ce que j'ai ramassé pendant 35 ans. Mais comment les pauvres, on va les protéger? Il suffit de l'arbitraire du pouvoir.
Pour que demain,
on lui enlève tout ça, on le met en prison. Par contre, le pouvoir est obligé, parce que c'est une juridiction musulmane, c'est une décision de justice musulmane, il ne peut pas toucher cette décision. Elle est sacrée. Donc, c'est la loi qui va protéger, même contre l'arbitraire des pouvoirs. Et c'est comme ça qu'on a vu des bibliothèques entières être préservées pendant des siècles. Parce que même le pouvoir, quand il avait besoin d'argent, il pouvait aller prendre des bibliothèques privées, du vivant des personnes, et vendre, parce que comme ça il avait beaucoup d'argent, il ne pouvait pas le faire avec les bibliothèques qui étaient en waqf. Alors là, on va voir des propriétaires de bibliothèques complètement anonymes, comme moi je suis un citoyen anonyme, hein, je vais décider que cette bibliothèque va aller pour une autre bibliothèque, la Bibliothèque Nationale d'Alger par exemple,
oui.
Ou la Bibliothèque Nationale de Paris, ou bien une institution de recherche. Parce que je suis sûr que ceux qui vont préserver ce que j'ai ramassé pendant 30 ans, ce sont ceux qui ont intérêt à ces livres. Ensuite, il y avait les propriétaires de manuscrits, tenez-vous bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient même pas des bibliothèques. Ils avaient une dizaine de manuscrits.
Oui, pourquoi les laisser se perdre?
Pourquoi les laisser se perdre? Donc, ils faisaient une donation. Il y avait évidemment ceux qui construisaient des hôpitaux. Alors, on connaît un bel exemple d'hôpital construit par un individu. C'est celui de Halab, l'hôpital Araroun. Il existe jusqu'à maintenant. Je l'ai visité en 2005 avec des journalistes. Et ce Araroun a laissé pour le fonctionnement de l'hôpital, qui était spécialisé pour les maladies mentales.
Vous en avez parlé dans l'émission sur la médecine.
Voilà, oui. Il était financé parce que le monsieur a laissé en donation, en habous, en waqf, des dizaines d'hectares de jardins. Il avait aussi des maisons qu'il louait. Et ça permettait de financer l'hôpital. Et l'hôpital a fonctionné comme ça. Et personne n'osait toucher l'hôpital, ni le transformer. Je vais vous donner un exemple. Malheureusement, on ne peut pas le lire en entier parce qu'il est très long.
Mm-hmm.
Un exemple de texte de waqf, c'est-à-dire d'un contrat de donation. Alors là, il s'agit d'un roi quand même. Mais même les rois se méfiaient des autres rois. D'ailleurs, il se méfiait plus qu'un citoyen ordinaire. Parce que lui, il laisse un hôpital, celui qui va venir après lui peut très bien transformer l'hôpital en autre chose. Et donc, il veut que son mécénat continue à rendre des services après sa mort. Et nous avons là un exemple, regardez, je vous l'ai apporté, le livre du docteur Ahmed Issa, qui a fait la première histoire des hôpitaux en islam. Il est en arabe, pour dire aux auditeurs qu'il y a des chercheurs, des auteurs dans les pays arabes qui sont très sérieux, seulement ils ne sont pas connus, ils ne sont pas valorisés. Regardez, l'acte de Habous, il commence ici. Il y a marqué ici l'acte de waqf du sultan Al-Malik Mansour Qalaoun, très connu au Caire, qui a régné de 1279 à 1290. Et regardez le document juridique, une page, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc. Donc toutes ces pages dans lesquelles il précise dans le détail qu'est-ce qu'il a laissé et à quoi ça va servir. Et ce document, nous l'avons découvert. Il était déposé chez un notaire. Je vous montre juste quelques petits passages où il dit « Je finance cet hôpital à partir de la location des terres qui sont dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit, qui vont rapporter de l'argent. Et ces terres sont inaliénables. Personne ne peut les prendre. Ils sont défendus par la loi de l'islam, protégés par la loi de l'islam, la loi du waqf. » Alors que cette loi du waqf n'existait pas dans les textes avant.
Oui.
C'est vraiment une réponse à une demande sociale.
Oui.
C'est pour vous montrer d'ailleurs qu'à l'époque, les musulmans étaient d'une souplesse telle qu'ils adaptaient l'islam dans sa richesse
aux nécessités du quotidien.
Alors, ici, il évoque le fameux hadith.
Oui.
Donc on voit bien qu'il est imprégné de toute une culture et qu'il le fait par générosité, par continuité d'un certain comportement culturel. Et il dit, l'action d'un musulman ou d'un fidèle s'arrête, sauf pour trois choses. Une aumône qui est continue, une science qui est utile, et un fils a été bien élevé. L'action d'un être humain après sa mort se continue par ces trois choses. Mais parmi les trois choses, c'est un hadith du prophète, il y a la science. Cette action-là va justifier tout l'acte, voilà, l'acte juridique.
Les 21 pages.
Les 21 pages. Et puis à un moment donné, regardez, il parle explicitement, il dit « Attention, dans cet hôpital, on doit soigner les malades mentaux. Il le dit ici, à la page 5, il le dit à la page 6, il le redit à la page 10. Il insiste à chaque fois, attention, les malades mentaux, ils doivent être habillés, ils doivent être nourris, les hommes et les femmes séparés. Quand ils quittent, s'ils sont un peu mieux, il faut leur donner des habits complets, et leur donner un pécule pour ne pas qu'ils soient dans la rue. C'est-à-dire qu'il a écrit dans l'acte les menus détails. Regardez, allusion aussi aux malades mentaux. Allusion aux malades mentaux, c'est la quatrième fois. La quatrième fois dans le livre, etc., etc. Voici un document superbe qu'on devrait montrer aux générations actuelles pour dire voilà comment un grand roi a décidé d'utiliser la loi musulmane après sa mort pour rendre service à la société.
Oui, que dire après tout ça ? Eh bien, vous avez été un mécène, vous aussi, ce soir, en m'accueillant dans votre bibliothèque, hein, puisque cette émission est enregistrée à Paris, chez vous, dans votre magnifique bibliothèque, et en mettant à disposition des auditeurs toutes ces connaissances. Donc j'ai bien dit au départ, vous allez être mécène ce soir. Merci, professeur Djobar.
Merci beaucoup.
Merci pour cette merveilleuse balade dans le monde généreux du mécénat. Et pour les auditeurs, j'espère que ça pourra aussi vous inspirer, comme l'ont été ces grands mécènes de l'histoire de l'âge d'or des sciences arabes. Et ce soir, le professeur Djobar, bonne semaine et à vendredi pour une autre émission.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djobar. Présentation Dalila Smaïl. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fourage.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.